Chapitre 7. Une déclaration. Le même soir, comme toute la société prenait le frais aux fenêtres du salon, et la lune, commençant à répandre sa douce clarté, on vit arriver un domestique étranger, revêtu d'une livrée très riche. Il descendit de cheval à la porte de la salle d'entrée, et bientôt après donna une lettre à Miss Margland. Celle-ci ouvrit le paquet d'un air fort grave, mit dans sa poche une lettre, et, après en avoir lu une autre deux ou trois fois, elle demanda à Sir Hugh quelques instants d'audience particulière. Tous les jeunes gens sortirent de l'appartement. « Eh bien, monsieur, dit-elle d'un air triomphant, avais-je tort de désirer que nos jeunes demoiselles fussent un peu produites dans le monde? Voyez et lisez !» À Miss Margland, chez Sir Hugh Tyrold, baronnet, à Clèves, en Hampshire. « Madame, c'est avec le plus profond respect que j'ose m'adresser à vous, sans autre motif de confiance que cette aimable politesse qui se fait remarquer dans toute votre personne. J'ai le plus ardent désir de pouvoir placer quelques lignes sous les yeux de Miss Eugenia Tyrold avant de me présenter moi-même à Sir Hugh. Mes raisons sont contenues dans la lettre que je prends la liberté de vous adresser. Ce n'est qu'à l'aide de votre protection, madame, que je puis espérer de faire connaître mes sentiments à cette jeune lady, qui a le bonheur, m'a-t-on dit, d'être soumise à votre surveillance. Je me fais donc un honneur, madame, de vous soumettre moi-même mes vœux et mes intentions, et vous laisse absolument la maîtresse de la lire avant de la mettre sous les yeux de la jeune lady. Je suis, avec le plus profond respect, madame, votre très humble et très obligé serviteur, Alphonse Bellamy. P.S. Je prendrai la liberté d'envoyer mon domestique chercher une réponse demain au soir. » Voilà, continua Miss Margland, après que Sir Hugh eut lu cette lettre. Voilà la marche qui suit toujours un galant homme. Franchise, loyauté, respect, rien de clandestin, choix judicieux de la personne dont on implore les bons offices. C'est le même jeune homme dont la politesse nous enchanta à Norwick. Je vous ai parlé de lui. C'est le même qui dansa avec Miss Eugenia quand tous les autres la négligeaient. Oh, c'est, dit Sir Hugh en l'interrompant, une sotte aventure s'il en fut jamais. Comment imaginer que les attraits de la pauvre Eugenia puissent faire tout à coup tourner la tête à ceux qui la voient? Ce serait certainement une grande pitié si cet amour était sincère. Quant à cela, monsieur, je ne vois pas pourquoi Miss Eugenia n'aurait pas la faculté de regarder autour d'elle et de se choisir elle-même un époux. Il est d'autant plus à propos qu'elle se détermine librement et sans contrainte que le jeune Clermont n'a point de fortune. Et c'est précisément la raison qui m'engage à les marier ensemble. Car n'ayant pas eu la petite Vérole, ou du moins ne l'ayant pas eu naturellement, si d'ailleurs il a peu de fortune, il n'en sera que plus disposé à excuser la figure d'Eugénia. Et son bon caractère, joint à une bonne somme d'argent, ce dont beaucoup de gens, dit-on, font grand cas, pourra être aux yeux de Clermont un dédommagement convenable. Je voudrais que cela ne fût pas arrivé. N'est-il pas possible que Eugénia ait pris du goût pour ce freluquet, qui pourrait, au surplus, être aussi bon mari qu'un autre? Mais comme il ne m'est rien du tout, et que mon neveu est mon neveu, pourquoi souffrirais-je que le meilleur plan que j'ai jamais conçu fût tout à coup renversé et jeté dans la mer Rouge? Miss Margland tira de sa poche la lettre adressée à Eugénia. Elle allait en rompre le cachet. Sir Hugh l'arrêta. « Non, Miss Margland, dit-il, Eugénia peut lire ses lettres elle-même. Après l'avoir fait instruire si longtemps par un des premiers docteurs du siècle, je ne souffrirai pas qu'on lui fasse cet affront. » Alors il sonna et fit appeler Eugénia. Miss Margland représenta qu'il n'était pas dans l'ordre qu'une jeune personne lût une pareille lettre sans l'aveu de ses parents et tuteurs. Mais Sir Hugh n'ouvrit pas la bouche jusqu'à l'arrivée de sa nièce. « Ma chère, lui dit-il, voici une lettre venue tout exprès pour mettre votre éducation à l'épreuve, et je suis sûr que vous vous en tirerez à merveille. Vous ferez vous-même et vous seule la réponse. Vous avez pour cela tout ce qu'il faut et tout ce qui me manque. Cependant, j'irai demain matin trouver mon frère et prendre ses conseils, attendu qu'il a une des meilleures têtes que je connaisse. » Eugénia, extrêmement surprise, ouvrit la lettre et la lut avec une émotion visible. « Eh bien, ma chère, que dites-vous de cela ?» Eugénia, sans répondre, recommença à lire la lettre. Sir Hugh répéta la question. En vérité, monsieur, dit tristement Eugénia, tout ce que je puis dire, c'est que cela m'afflige beaucoup.
Le ciel nous en préserve, s'écria Sir Hugues. Vous voyez, voilà ce que c'est que d'aller au bal. Mais j'en demande pardon à Miss Margland, c'est la dernière fois que cela vous arrivera.
Miss Margland allait commencer une apologie raisonnée de sa conduite et de ses intentions. Sir Hugues l'interrompit en demandant à voir la lettre.
En vérité, monsieur, dit Eugénia toute confuse, ce n'est pas là une lettre que l'on puisse montrer.
Comment, dit Miss Margland, je n'aurais jamais imaginé qu'un homme aussi honnête pût écrire une lettre qu'on eût de la peine à montrer.
Voyons, voyons, dit Sir Hugues, si ce ne sont que des compliments, il n'y a pas grand mal à cela. Des compliments ne signifient jamais rien, et j'espère que vous n'y faites pas attention.
Tous les amants s'en font, dit-on.
Quant à vous, il n'est pas étonnant que vous n'y entendiez rien, car ce n'est pas là ce qu'on vous a appris. Le docteur Orkbone lui-même ne s'y entend peut-être pas mieux que vous, ce dont je suis loin de lui faire un reproche, attendu que ce n'est pas là mon affaire.
Eugénia lui remit la lettre et sortit de l'appartement.
À Miss Eugénia Tyrold, à Clèves.
Mademoiselle, la délicatesse des sentiments, unie chez vous dans un degré si rare à l'esprit le plus cultivé, ne permettent pas à un amour respectueux de vous exprimer toute l'ardeur de la passion que vous lui inspirez. Si je n'ai pas encore eu l'honneur de me présenter devant Sir Hugues, je vous prie de ne l'attribuer qu'à la crainte de vous déplaire, en hasardant cette démarche avant de savoir si elle peut vous être agréable. Je différerai donc jusqu'à ce moment de solliciter auprès de lui la permission de vous offrir mes assiduités. Je ne veux pas que vous me supposiez assez présomptueux pour imaginer que j'ai pu fixer votre attention dans le peu d'instants que j'ai eu le bonheur de vous voir. Cependant, ne pouvant me dissimuler que ce temps si court a suffi pour exciter en moi l'attachement le plus durable, la plus sincère admiration de vos vertus et de votre esprit, j'ai cru devoir employer le seul moyen que j'eusse pour vous faire part de mes sentiments, sans m'exposer à encourir votre disgrâce. Accordez-moi donc, je vous prie, avec la permission de cette excellente dame qui vous donne ses soins, encore un moment d'audience, afin que je puisse prendre vos ordres sur l'intention où je suis de me présenter à Sir Hugues. Sans cette autorisation, je me croirais peu digne de l'aborder, et je rougirais même d'oser me jeter à vos pieds. Je vous supplie, mademoiselle, de vous rappeler que je serai malheureux jusqu'à ce que je connaisse mon sort, et surtout que c'est le cœur et non la main qui peut faire le bonheur de votre très humble et très désintéressé serviteur, Alphonse Bellamy. Après avoir lu, Sir Hugues poussa un profond soupir et demeura la tête appuyée sur sa main, délibérant en lui-même s'il communiquerait ou non la lettre à Miss Margland. Mais celle-ci, poussée par sa curiosité, s'était assise à côté de lui et l'avait déjà lue tout entière. Pour éviter d'entrer avec elle en contestation, Sir Hugues serra la lettre dans son portefeuille et envoya de nouveau chercher Eugénia. Mais celle-ci s'excusa auprès de son oncle en lui faisant entendre qu'elle avait un grand mal de tête et qu'elle allait se mettre au lit. Cette réponse alarma Sir Hugues et, quoique la soirée fût avancée, il ne résista qu'avec peine au désir d'aller à l'instant même à Essington. Il demanda son carrosse pour le lendemain matin à 8 heures précises. Un moment après, il le demanda pour 7h30. Puis, faisant appeler Camilla, il la chargea de reporter tout de suite à sa sœur la lettre dont elle pouvait être inquiète, et il se mit au lit pour être prêt le lendemain de bonne heure. L'âme douce et tranquille d'Eugénia se sentait troublée pour la première fois. Elle n'avait point vu sans plaisir et sans intérêt les assiduités de ce jeune homme. Mais cette impression légère n'avait pas duré plus longtemps que sa présence. Le poète l'avait plus vivement intéressée. Son énergie, ses sentiments, son goût passionné pour la littérature auraient complètement gagné son cœur si, se regardant déjà comme la femme de Clermont-Lynemer, elle n'eût pas su employer toutes les facultés de sa raison pour réprimer les tendres écarts de son imagination. Cette lettre, cependant, lui fit éprouver une foule de sensations nouvelles. Elle réfléchit pour la première fois sur la nature de ses engagements avec Clermont. Son oncle favorisait cette union, mais sans avoir la plus légère raison de croire qu'ils se conviendraient mutuellement. S'il arrivait qu'elle lui déplût, elle aurait donc la mortification de se voir refusée. S'il lui déplaisait à elle-même, elle se trouverait dans l'alternative ou de tromper les intentions de son oncle
ou de se sacrifier au désir de s'y soumettre. Ici, au contraire, elle pouvait se regarder comme le choix de belle amie. Il est fort différent d'être accepté ou d'être choisi. Et tout ce qui, dans les idées d'une femme, tient à la délicatesse et à la dignité de son caractère, s'élevait dans l'âme d'Eugénia en faveur de celui qui la recherchait, par opposition à celui qui ne pouvait que consentir à la recevoir. Ce nouvel amant lui paraissait d'ailleurs généreux, puisqu'il demandait son consentement avant que de s'adresser à Sœur Hugues. Désintéressé, en déclarant qu'il ne désirait point obtenir sa main sans son cœur, et véritablement noble, car il dédaignait toute voie clandestine et se confiait à Miss Margland. Eugénia commença même à croire, quoique ce fût pour elle une idée toute nouvelle, qu'après tout, il n'était pas impossible qu'elle inspirât une vive passion. Mais loin que cette pensée lui causât de l'orgueil, elle ne produisait dans son âme simple et modeste qu'un sentiment de gratitude pour Bellamy et pour elle-même une sorte de satisfaction douce que sa raison ne pouvait lui expliquer, mais à laquelle son cœur se livrait sans scrupule et sans réserve. Lorsque sa sœur entra avec la lettre, Eugénia lui demanda d'un air timide si elle voulait la lire. « Oh, vraiment, oui !» répondit vivement Camilla. « Je la lirai volontiers. » Mais, après l'avoir lue, « Ce n'est pas ainsi, dit-elle, qu'aurait écrit Edgar Mandelbert. »« J'en suis bien sûre, dit Eugénia en rougissant. Je suis donc fâchée de l'avoir reçue. » « N'observez-vous pas tous les jours, dit Camilla, avec quelle réserve il se conduit avec Indiana, quoique leur mariage, si l'on croit Miss Margland, soit arrêté? Combien il est attentif à ne montrer pour elle aucune préférence qui pût lui causer de l'embarras? Cette déclaration, au contraire, est si brusque, la connaissance est si nouvelle. » Sans doute, dit Eugénia déconcertée, « Oh, je ne répondrai pas à cette lettre. J'en avais jugé autrement à la première lecture. » Mais je vois maintenant que cette démarche est fort déplacée. » Après avoir dit franchement son opinion à sa sœur et lui avoir rappelé que Clermont seul était le mari qui lui convenait, Camille l'embrassa et se retira dans sa chambre. Eugénia, restée seule, relut la lettre. Mais ce fut alors sans plaisir. Elle n'y vit plus qu'une hardiesse présomptueuse et la seule satisfaction qui lui resta fut la persuasion qu'à peine encore elle osait s'avouer à elle-même qu'il était possible qu'elle inspirât à ceux qui la voyaient une vive considération.